Nos agriculteurs qui étaient là, ils sont au bord de l'autre côté. Alors ça va être plus dur. Hein. De l'autre côté.
Bon, quelques questions, quelques informations venant de la salle. On peut commencer comme ça. Et puis, le dialogue se nourra. Bon, je pense qu'il y a eu une information critique sur le mode de consommation important, voire industriel bio. Peut-être que maintenant, on pourrait faire place à la consommation et à la production locale, les circuits courts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, peut-être profiter de la présence de ceux qui sont là et qui sont donc des biolocaux ou des gens respectueux de l'environnement pour effectivement parler de ça et voir ce qui se fait, ce qui a évolué et ce qu'on pourrait faire de mieux encore. Voilà, je vous propose ça parce que je pense que ça manque aussi. Oui.
Peut-être dans un environnement comme ici, en crèche reconvertie, mais peut-être qu'il faudrait accompagner les paysans qui veulent se convertir, parce que c'est quand même une procédure. On ne change pas du conventionnel au bio du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années pour vraiment arriver à être bio-bio. Et pendant ce temps, il faudrait avoir une clientèle fidèle qui accompagne ce reconvertissement.
Oui.
Est-ce que le Crédit Agricole, par exemple, est le seul organisme prêteur qui permette effectivement de faire fonctionner la naissance du bio ici?
Il y a Terre de Liens, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, mais justement, c'est...
Terre de Liens, c'est pas les seuls, mais c'est un organisme qui capte l'épargne populaire pour acheter des propriétés, des fermes, et aider l'installation de jeunes ou de moins jeunes. Je ne sais plus exactement, je crois qu'ils en sont à 100 installations, je ne sais plus combien de milliers d'hectares ils ont pu racheter comme ça, mais c'est quelque chose qui prend vraiment forme et qui se développe. Je crois dans le Lot, ils ont réussi à acheter 3 ou 4 fermes, je ne sais plus exactement où ça en est. Mais c'est quelque chose qui est totalement à l'opposé du fonctionnement du Crédit Agricole et qui est une alternative. Je sais qu'il y a d'autres endroits, au Pays Basque aussi, où ils font appel à une épargne populaire pour installer des paysans. Enfin, ça fait partie des alternatives. Et le problème de la terre se pose partout, quoi. Aussi bien en France qu'ailleurs.
C'est pas dans tous les départements qu'il y a 2 chambres d'agriculture aussi.
Non. C'est au Pays Basque. Enfin, il y en a une au Pays Basque et une au Béarn. Après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, en plus, pour j'ai un peu trop plombé l'atmosphère. J'aimerais bien que les paysans qui sont dans la salle prennent la parole et réagissent ou donnent leur point de vue, ou comment eux, ils arrivent à se débrouiller pour faire une autre agriculture totalement à l'opposé de celle que je viens de décrire. Voilà, moi c'est plus à moi de parler, donc...
Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui, oui.
2 minutes après, je te donne la parole.
Bravo. Il avait de moi.
Le constat qui est fait, il est juste. Hein. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Espagne, aux quatre coins du monde, il est vrai, il est juste. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, moi, il y a une observation que je voulais faire. Et notamment par rapport au cahier des charges. Alors, le cahier des charges, il a été élaboré par la profession, n'est-ce pas? Il a été défendu par la profession.
C'est plus fort.
Et il est malheureusement attaqué tous les jours. Tous les jours. Alors, il est défendu par des agriculteurs qui quittent leur ferme régulièrement, à titre gracieux. Hein, des agriculteurs qui ne sont pas défrayés, qui ne font pas leur travail, qui quittent leur famille, leur ferme. Bref. Et en face de nous, on a des lobbies, mais énormes, énormes, inimaginables. Hein. Monsanto, BASF, l'industrie de la chimie, l'agroalimentaire, et on est tout petit, Moi, j'ai aucun moyen. Il m'en coûte régulièrement d'aller défendre le cahier des charges, mais à côté, c'est petit, quoi. Je veux dire, on est insignifiant. Le soutien des pouvoirs publics, il est absolument pas là. Il y a quelques mesures, mesurettes, ça et là, un petit crédit d'impôt, mais, voilà. mais la volonté, inexistante. Après, il y a une observation aussi que je voulais faire, et là je suis un petit peu en contradiction avec le débat, c'est que quand on dit qu'il y a 2000 hectares de canne à sucre qui sont produits bio, dans la manière que vous avez décrit, moi j'adhère pas du tout, hein. Des gens pieds nus, payés une misère, à qui on a retiré le passeport pour pas qu'ils puissent se rebeller, etc. Je suis pas d'accord. Par contre, le constat qu'il faut faire, c'est que 2000 hectares de canne à sucre bio, hein, ben c'est combien de tonnes de pesticides en moins qui a été déversé. Faut pas l'oublier, ça. Alors, évidemment, l'agro-industrie bio, moi, c'est pas idéal. Je ne conçois pas comme ça. Moi, je travaille sur 3 hectares. J'ai des poules, j'ai des lapins, un petit peu ce qui a été décrit tout à l'heure. C'est beaucoup de travail, c'est certain. Bon, c'est un choix. Mais il ne faut pas non plus vouloir jeter la bio avec il ne faut pas tout jeter ensemble, n'est-ce pas? C'est toujours des milliers de tonnes de pesticides en moins qui sont déversés.
Là, en l'occurrence, l'exemple dont je parlais, dans la vallée du Cauca, dans la région de Cali, c'est 300 000 hectares de canne à sucre. Et donc, il y a 3 000 hectares, je crois, au milieu, là. Mais 3 000 hectares dans tout ça, c'est rien parce que... Et ces 300 000 hectares, ils utilisent, il y a une utilisation massive de glyphosate que j'ai découvert là-bas. Le glyphosate sert à faire... Ils appellent ça madurante, à faire monter le taux de saccharose juste avant de le couper, quoi. Donc les terres sont saturées de glyphosate. Et je me demande même comment les 3 000 hectares peuvent être certifiés bio, quoi. Après, ce sont des terres qui ont été volées à des paysans. C'est des paysans qui ont été soit massacrés, soit chassés, et sur lesquels... Moi, je préférerais qu'il y ait des paysans qui fassent, comme j'en ai vu d'autres, en Colombie, dans la région de vers Popayan. C'est une coopérative de 1500 paysans, c'est des communautés, et ils font, donc ils exportent, ils vendent du café bio, mais ils ont chacun 1 ou 2 hectares, et c'est extraordinaire de voir les plantations qu'il y a. Donc il y a du café, il y a une dizaine de variétés de café différents, il y a du maïs, il y a des tubercules, il y a des pommes de terre, il y a des arbres fruitiers en pagaille, enfin c'est un jardin, c'est extraordinaire la luxuriance de la végétation qu'il y a sur ces terres, et uniquement destinée à s'alimenter, quoi. Il y a une richesse incroyable, et ils consacrent un petit peu de ces terres à l'exportation d'un café certifié bio, quoi. Je préférerais que ça soit plutôt comme ça dans le baillet du coca, quoi.
Et nous aussi. Voilà.
Vas-y. Oui, c'est toi, Benoît. Allez.
Le bio lui-même, bon, mais c'est un mode de production. Je veux dire, la réglementation, elle est ce qu'elle est. Ce qui en cause aujourd'hui par rapport à ce qu'on dit à bon sens, c'est à la limite ça peut se donner pour tout le reste de l'agriculture, c'est que le paysan est devenu un producteur de matières premières, pour l'agro-industrie et au-delà pour les bénéfices de la grande distribution. On est bien d'accord. Donc, je veux dire, c'est pas. C'est moins le système de production que le bio qui est mis en cause. Effectivement, quand le bio rentre en plein, la bio en plein dans cette forme de production, on est en faux. Aujourd'hui, la réglementation ne l'interdit pas. Donc, moi, ce que j'en dis, c'est que la réglementation est une chose. Mais le travail et la prise de conscience par nous consommateurs et nous producteurs, en fait, pour certains, mais peut-être le modèle pourrait s'élargir dans la production, puisque chacun peut aussi produire, enfin ici où on a une zone où on a assez facilement accès à des petits jardins, à quelque chose qui nous permette de garder un lien à la production quelque part. Et donc pour en venir cette prise de conscience, elle doit se faire pour que le modèle change. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit la réglementation avec, effectivement, ce que soulevait Bernard, les assouplissements qui permettent aux politiques les arrangements pour le business globalement, quoi. Donc la prise de conscience, elle est plutôt dans la confiance qu'on peut avoir entre les gens qui produisent et ceux qui consomment. Mais celle-là, elle est très intéressante et fondamentale pour le bio, mais pas que. Voilà. C'est ma réflexion.
Et est-ce que vous arrivez à vous en sortir au niveau des revenus?
Je ne sais pas, mais parce qu'on est quelques producteurs autour à arriver à fonctionner en essayant de justement coller à cette ligne de fonctionnement, de confiance avec les gens qu'on a autour, avec des structures plus ou moins importantes. Mais je veux dire, c'est une démarche, c'est important, mais c'est la base de notre fonctionnement aujourd'hui, quoi, de retrouver. De plus être des producteurs de matières premières, parce que sinon on est à la merci d'un système en plus qui s'est très concentré et qui est un fonctionnement économique en pyramide où c'est au bout de la chaîne toujours les mêmes qui récupèrent les subsides, tout en matraquant en moyens de communication qui sont les moins chers, qui sont les meilleurs. Sur le dos de l'ensemble et des consommateurs, après de nous consommateurs et de nous producteurs aussi, à chaque bout de la chaîne.
On ne gagne pas beaucoup de sous, mais on rigole. Alors, c'est vrai. Ouais. Mais moi, quand on essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche et de ne plus être qu'un simple livreur de matières premières, comme l'a évoqué Benoît, on essaye d'aller un petit peu plus loin, et c'est vrai, d'aller vers la vente directe, dans le sens aller au contact du consommateur, donc de façon individuelle ou, dans notre cas, entre autres, de façon collective, puisqu'on est sur Panier Paysan, les 18 fermes associées. Et je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui rouillons sur l'or, mais on a un plaisir immense à se retrouver entre nous et à développer ça. Et un plaisir immense à voir aussi la satisfaction de nos clients. Après, reste toujours la question du prix et de la facilité d'accès par rapport à la notion du prix. Mais comme on le disait en aparté tout à l'heure aussi avec José, qu'on soit au SMIC, beaucoup de gens consommateurs sont au SMIC, vont râler que c'est trop cher, mais chez eux ils vont avoir 3 portables, le home vidéo, etc., etc. Donc on reste sur des choix de consommation et il faut que les gens vivent en conscience et achètent en conscience.
Surtout de la nourriture nécessaire.
Oui, il se paie au SMIC. Il ne se paie pas à 40 euros
de l'heure. Oui, SMIC, je ne sais pas ce que c'est que SMIC, mais on s'en fout. Mais en 10 euros, quoi, voilà. Ouais, je pense qu'il faut sortir aussi de l'approche purement marchande, parce qu'on est systématiquement dans cette approche-là, mais le vivant est beaucoup plus complexe qu'une approche purement économique. Ouais. Et heureusement.
Oui, mais faut en vivre quand même.
Faut en vivre, bien sûr, faire passer aux charges. Et à l'augmentation. Non, mais oui. Bien sûr qu'il faut en vivre. Mais il faut faire. Garder un. Bon, c'est facile à dire, un bon sens paysan, ce petit digue, etc. Il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on gagne aussi. On a souvent envie, le travail souvent est dur, on a envie de le rationaliser un petit peu. Mais jusqu'où? Il y a toujours cette limite, je vais m'équiper pour moins souffrir au travail, pouvoir produire un peu plus, gagner un peu plus. Ça fonctionne vachement bien. Je viens de dire là, dans son entreprise que la section machinisme d'Unicorn a battu tous les records depuis 1946 en termes de chiffres. On peut bien dire qu'il y a de l'argent chez les agriculteurs et qu'ils le mettent pas forcément sur leur... Enfin, ils n'ont pas forcément... Peut-être aussi n'ont-ils pas le choix dans la façon dont ils sont accompagnés, mais il faut réussir à rester libre de ses choix aussi sur sa ferme, c'est pas toujours facile. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que
le côté machinisme agricole aujourd'hui il éclate quoi. Et à côté de ça, on entend que les mecs ils font en bovin lait quand il y a eu la crise l'année dernière, des fermes qui avaient des quotas de plus d'un million de litres, c'est beaucoup. Ils brassent donc, ils font des chiffres d'affaires de je ne sais pas combien de millions de francs. Et ils vont bouffer aux fermes populaires.
Il a fait sport.
Donc il y a bien des problèmes. Aujourd'hui, on brasse vachement. Mais pas tant, parce qu'on est sur les petites fermes. Mais je ne suis pas représentatif. Mais la grosse majorité brasse énormément d'argent pour finalement, à la fin, avoir peanuts. Tu donnais un chiffre tout à l'heure, José, sur la valeur de par rapport à la richesse nationale, de ce que représentait la plus-value créée par les paysans, 1,7%.
Oui, aujourd'hui, il faudrait voir les chiffres de l'INSEE. Le modèle agriculture France, il génère 1,7% de la valeur ajoutée nationale. En gros, ça veut dire que la nation se nourrit pour 1,7% de la richesse qu'elle crée. C'est ça. Alors, dans les mêmes chiffres de l'INSEE, on a toujours des statistiques qui disent que le budget alimentaire des Français, c'est 14% consacré à l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez ce même chiffre. Mais en réalité, ce qui sort de l'exploitation agricole, toutes exploitations confondues, c'est 1,7% de la richesse nationale. Donc la nation, hormis la question de la balance commerciale, la nation, elle consacre ça à se nourrir. Elle consacre ça aux paysans.
Ça paraît très
tôt. Le modèle, si on reste sur ces bases, comment peut-on aller au-devant de paysans qu'on a amenés à des process d'industrialisation de revenir en arrière, quand dans le même temps, les prix qu'on leur consacre pour un litre de lait, pour un kilo de viande, ils sont toujours au plus bas, quoi. Moi, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir... évidemment, il faut conserver l'agriculture bio en France, mais elle ne représente pas grand-chose dans le poids global de l'agriculture. La question, c'est comment on fait basculer une plus grosse masse de l'agriculture. Comment on passe de 70 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année en France à peut-être 30 ou 40 000 tonnes et peut-être un peu plus tard 10 000 tonnes, c'est-à-dire vraiment quelque chose de significatif. Et ça, moi, il me semble qu'on ne peut pas changer de modèle de production si on ne change pas de modèle de consommation.
Il y a le modèle de consommation et puis il faut que chacun se réapproprie l'alimentation. Cela concerne tout le monde. Désolé, pas forcément que les paysans, ça concerne tous les paysans, les consommateurs et tout le monde. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les politiques sont, à ce niveau-là, ils sont totalement absents, quoi. Moi, je voyais le programme des candidats aux présidentielles, c'était dérisoire, quoi, leur programme. Soit c'était reconduire le modèle existant, soit, à gauche, c'était complètement une agriculture durable, où c'était des termes pour s'en débarrasser et on n'en parlait absolument pas, quoi. Donc l'exemple que je parlais de la PAC, mais c'est essentiel ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est un modèle agricole qui va être imposé à l'ensemble de l'Europe, et effectivement l'agriculture biologique n'existe absolument pas dans ce modèle. Mais voilà, après, comment changer de politique quand ça c'est en place? C'est le système des subventions va continuer. Il y a un céréalier du Nord, je ne sais plus où j'ai lu ça, le type il a vendu, il avait fait 360 000 euros de chiffre d'affaires, et il avait stocké des céréales, du blé, qu'il avait vendu deux fois plus cher que l'année précédente. Et il a touché en plus 160 000 euros de subventions de la PAC. Donc c'est ce système-là qui va être reproduit. Donc comment le casser? Alors, enfin, on va arrêter les choses négatives, mais comment le casser? Comment réussir, soit bon, avec Terre de Liens ou d'autres, comment, par exemple, vous avez réussi à vous installer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, qui ne sont pas dans des familles paysannes. Quand on est issu d'une famille paysanne, c'est plus facile, mais des gens qui viennent du monde, d'un autre monde, c'est très difficile d'obtenir des terres actuellement en France. Il y a le système de la SAFER qui verrouille tout. Il y a des régions où il est un peu plus ouvert, mais il y a le système du crédit agricole. Enfin, comment réussir à trouver des failles dans ce système qui est... On ne va pas parler de mafia, parce que c'est un bloc monolithique d'intérêt commun qui regroupe le crédit agricole, la FNSEA, l'INRA, les chambres d'agriculture. Enfin, et comment trouver des failles dans ce système? Je crois que la véritable question, elle est là, quoi, pour essayer de trouver une alternative à une autre agriculture, quoi. Alors, je ne sais pas, comment c'est possible de s'installer aujourd'hui? Il faut faire des emprunts. Tu as fait des emprunts? Comment ça s'est passé?
Ouais.
Nous, c'est un compte de fait. Mariette qui s'est installée d'abord, mais nous, on a eu la... Enfin, le Vallon pour moi, je l'ai toujours analysé comme ça, a un potentiel pour installer des jeunes sur les coteaux, parce que tous ces coteaux n'ont plus été travaillés et sont en friche. Donc, un intérêt de plus grand monde, si ce n'est pas les viticulteurs aujourd'hui. Moi, ça reste un micro-exemple. Hein. Mais du coup, on a pu avoir accès au foncier en rachetant des friches, pas très cher, et en remettant tout en état.
Terrasse.
Beaucoup. Enfin, l'eau derrière, mais on est. Voilà, nous, notre situation, c'était ça. On a trouvé des friches, on a réussi, en se retroussant les manches, à monter une petite ferme. Voilà. Mais après, par rapport à la SAFER, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un organisme qui a vocation, enfin qui a un service de mission de service public, donc qui est agréé par les gouvernements pour gérer, distribuer la terre aux paysans pour produire de l'alimentation. Mais aujourd'hui, cette SAFER, c'est une société anonyme et au sein de laquelle n'était représenté jusqu'à maintenant que le syndicat majoritaire que l'on appelle la FNSEA, ainsi que les banques Crédit Agricole, et depuis peu les collectivités locales, mais ce n'est pas trop parce que c'est quand même leur électorat, les paysans, donc débrouillez-vous entre vous. C'est une caricature, mais je ne suis pas trop loin de la réalité. Et déjà, du coup, déjà pour avoir accès à l'information, quelles sont les terres qui se libèrent, c'est déjà très compliqué puisque ça fonctionne. Il y a tout un réseau dans tous les départements de syndicats locaux de cette FNSEA avec des responsables qui ont eux seuls l'information des terres qui se libèrent. Donc nous, je fais partie de la Confédération paysanne et donc depuis très longtemps, on se bagarre pour essayer d'ouvrir un petit peu cette structure en disant que minimal accès à l'information doit être la même pour tous. Et ensuite, bien sûr, discuter les critères d'attribution. Mais c'est très très difficile. On est sur une chape de plomb de 50 ans, 60 ans d'histoire, avec des us et coutumes qu'on a beaucoup de mal à bousculer malgré de très nombreuses actions. Et avec en plus. Les politiques ne se bougent, enfin, veulent pas trop se bouger là-dessus, enfin, avec beaucoup de retenue. Donc ça évolue tout doucement. Mais même si on va obtenir un peu plus de transparence pour l'accès aux fonciers, il faut connaître aussi la réalité de la valeur financière de l'hectare de terre agricole en relation avec ce que l'on peut produire sur un hectare de terre agricole. Et ce qui va nous permettre de nous rémunérer. En Aveyron, la moyenne, tout confondu, travers, terrain, cultivable, enfin tout, je ne sais pas si moi je dirais 10 000, mais est-ce que je suis haut?
Ouais, trop.
Et on n'a pas de moyenne, je suis haut. Donc c'est 6 000
Ça dépend, en francs ou en euros? Ouais.
Pardon, ouais. Non, mais bon, il y a des terres sur l'Aubrac, on est à 10-12 000.
Ah ouais,
c'est... Sur ces gars-là, on peut faire des céréales. Sur l'Aubrac, on fait que de l'herbe. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le système de la PAC. Parce qu'on produit de l'herbe, mais on prime surtout. C'est une réalité. Je critique ce système-là, mais il est comme ça aujourd'hui. Et tout le système des primes de la PAC, l'argent public versé par les contribuables européens, sert à ça. Et donc ça conduit à l'agrandissement systématique des exploitations, parce que quand on n'a rien aujourd'hui, si on a le rêve de monter un élevage bovin, une vache, ça c'est pas donné, un hectare de terre, c'est très loin d'être donné, un bâtiment, ça représente tout de suite des sommes complètement irrationnelles. Donc quand on est ténu, qu'on a un rêve et qu'on a un peu de sous de côté, pourquoi pas? Mais c'est super compliqué. Donc la majorité des nouveaux producteurs sont des gens qui vont s'installer sur des toutes petites structures. Donc, marchage,
un peu d'élevage caprin au vin. Mais c'est, voilà, dans les nouveaux arrivants, si t'as pas un peu d'argent de côté, si t'es pas bien né, c'est très difficile.
Et si tu pas ici.
Pour s'installer en bio, il n'y a pas de prime particulière. Non, pour un jeune qui veut s'installer en bio, il n'y a rien de particulier. Il bénéficie pas d'un encadrement.
Soit tu as peut-être une petite majoration au niveau de la dotation de jeunes agriculteurs. Je sais que tu étais un peu moins là-dessus, mais je crois qu'il y a, vu que tu vas faire une production avec à forte valeur ajoutée, c'est leur terme. Hein. Tu dois avoir une petite majoration de 5-10% de ta DGA, il y a un petit bonus.
D'accord.
Après, non, c'est
vraiment ça.
Tu as accès aux aides de la région sur les investissements en bio, des choses comme ça, mais
ouais, ça dépend des régions.
Oui.
C'est investissement en matériel, simplement, et après le crédit d'impôt.
Crédit d'impôt qui a été diminué de 4 000 à 2 000. C'était une mesure phare du Grenelle environnement, je crois. Hein. Et voilà, puis en catimini, ça a été ramené de 4 000 à 2 000 pour faire des économies. Et donc, voilà.
De quoi ? Oui.
Alors justement, en fait, le TPA, c'est mon fils qui s'est installé cette année, à 18 ans, mais par passion. Je pense qu'ici, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens n'ont pas arrêté parce que... parce qu'ils avaient trop de dettes et tout ça, comme ensemble. Je pense que c'est plutôt parce qu'il y avait la contrainte de travailler le week-end et que c'était plus facile d'être employé et d'avoir le week-end libre. Donc pour rester là, ce qu'on fait en ayant fait des stages et tout, les gens lui ont plutôt déconseillé de prendre un DGA. Donc il s'est installé sans DGA.
DGA ?
Et la retraite, il ne passe pas parce que nous, on a des antécédents qui nous disent que la retraite, eh bien, peut-être on n'y arrivera pas.
Ouais. Alors, l'espérance de vie décline avec la qualité de vie. Mm-hmm. Les soucis.
Notre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en bio, lui ?
Alors, il s'est installé bio, oui. Ouais. Et aussi, bleu blanc-cœur, viande. Et il a tous sa scolarité, ça a été très difficile parce que bio, c'était mal vu.
Ouais.
Il regarde les patates qui poussent, que ça, ah, ça c'est un bio, biodynamie, c'est des conneries, il va visiter une société où c'est du raisonné, alors moi je connais rien, donc ils disent le nombre de la quantité d'azote qu'ils mettent à l'hectare, ils regardent son prof, mais c'est pas du raisonné. Ça, c'est du raisonnier. Bon, mais on ferme ça au gueule et on...
Voilà. Oui, à côté.
En fait, quand on parle de changer de système agricole, l'impression que j'ai, moi, c'est que c'est le plus grand défenseur du système agricole, c'est les agriculteurs, de ce que je connais dans ma famille notamment. À part ceux qui vont se lancer en bio, où c'est vraiment un choix de vie, comme il y en a... Vraiment, on met toute son énergie, on se lance avec un petit machin. À part ceux qui vont faire du bio industriel, beaucoup d'agriculteurs sont eux-mêmes les défenseurs du système et qui leur donnent rien à manger. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, en fait. Des gens dans ma famille qui tirent pas très peu de salaire de leur travail, pourtant ils sont affiliés à la FNSEA à fond dans les enfants et tout ça. Et dès qu'on leur parle d'un système un peu différent, la Confédération paysanne, le bio, mais n'importe quoi, ça part dans des... On se fait incendie, mmh. Vraiment. La Confédération paysanne, je ne connais rien, je ne suis pas du tout là-dedans. Peut-être ce que j'en lis, je me dis, ils sont vraiment la défense. Et en fait, pourtant, ce que moi je connais, ils sont archi contre, c'est n'importe quoi. Et moi, être affilié au gros syndicat qui...
C'est toute une histoire.
Et c'est des gens qui... Qui peuvent faire des dépressions parce qu'ils vont travailler sans gagner de l'argent, parce qu'ils n'ont pas payé les... Enfin, pas cher, le vin, mais je te montre. Et pourtant, quand on parle de changer, ouais.
C'est dans le monde paysan qu'il y a le plus de suicides. Enfin, suicides. Et les cancers, moi j'ai vu un documentaire qui s'appelait La mort est dans le champ. Dans le pré. Dans le Mont et dans le pré. C'était terrible. C'était les portraits de trois paysans en chimie, en agriculture chimie, qui étaient tous les trois atteints d'un cancer, dont un en phase finale et qui meurt à la fin du film. Et c'était tout leur combat contre la MSA pour que leur maladie soit reconnue par la MSA. Et je crois que celui qui meurt à la fin du film, il meurt en ayant perdu son procès contre la MSA et sa maladie n'est pas reconnue, quoi. Donc c'est eux les premières victimes de ce système-là. Et c'est vrai que, historiquement, enfin, il y a un verrouillage, c'est vrai que... peut-être ils ont... Moi, je connais autour de moi aussi, hein, le père d'une amie, lui, c'est le dernier de toute une dynastie de paysans. Ça faisait des siècles et des siècles qu'ils étaient dans ce village. Là, c'est fini, c'est le dernier, il va disparaître. Il n'y a personne de ses enfants qui reprend la ferme. Et ça va être un autre qui va récupérer tout ça. Et puis, je sais pas... Mais en tout cas, il disparaît. C'est la fin d'un monde, quoi. Et lui, il faisait du tabac, de production très chimique. Il s'est endetté. Mais il refuse totalement de parler de... Ça remettrait tellement en cause sa vie que c'est pas possible. On peut pas parler d'une autre agriculture. Et jusqu'au bout, il va continuer. En sachant pertinemment qu'il pollue, il est bien conscient des dégâts qu'il fait. Et même pour lui, pour la santé autour de lui. Mais c'est, je sais pas, c'est une question de mauvaise conscience. Alors c'est sûr qu'après, quand c'est bloc contre bloc, bio contre conventionnel chimique, c'est pareil. Il n'y a pas de discussion, on n'arrive pas. Alors je sais pas par quel biais, mais c'est vrai que c'est ces gens-là qu'il faudrait, c'est eux qui devraient prendre conscience et, pour essayer de faire avancer les choses, quoi.
De toute manière, c'est pas la peine de faire un discours bio conventionnel. On l'a toujours vécu sur le terrain, c'est chacun a ses arguments et le débat devient stérile. Aujourd'hui, la seule chose qui peut avancer le bio sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs en bio qui sont arrivés à prouver, entre guillemets, que c'est un modèle économique qui tient la route et qui fonctionne, avec d'autres contraintes en utilisant certains atouts et en... pas toujours facilement, mais bon, je veux dire, pour moi, c'est la seule chose aujourd'hui au niveau de la production, hein, des paysans, qui fait avancer le débat et qui fait que les paysans se reposent des questions et font des choix différents au fur et à mesure. Sinon, c'est pas la peine de faire des discours. On est avec les schémas classiques de des gens de 68 contre.
Oui.
Non, mais c'est une réalité.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et effectivement, tout ce qui peut représenter l'image, donner l'image de ça, coupe effectivement
et
les débats et les évolutions et provoque les retranchements.
Et les coopératives qui sont investies dans la bio maintenant, et certaines sont même. Occupent des grandes parts du marché comme Maïsado aux Terres du Sud, enfin moi je parle de Terres du Sud, et c'est les gens qui ont effectivement sont restés sur ces schémas-là. Les bio, c'est des gauchistes, babacool et tout, et eux ils sont maintenant, ils occupent le marché des poulets bio avec le même état d'esprit, quoi. Ils n'ont pas du tout changé.
C'est une niche économique.
Voilà, c'est essentiellement ça. Après, l'histoire du débat, enfin c'est. En ce moment, par exemple, le nouveau ministre Stéphane Le Foll, à un moment donné, apparemment, était ouvert un peu à consulter, et on pouvait penser qu'il allait s'ouvrir, enfin, encourager et faciliter l'installation en bio, enfin, ouvrir des portes à l'agriculture bio. Et curieusement, alors, parce que c'est vrai qu'il y a un système qui est verrouillé, très très compact, d'intérêts très très puissants. La seule réponse qu'ils ont trouvée, c'est encore pour semer la confusion, ils sont en train de lancer avec de grandes campagnes de communication pour remplacer l'agriculture raisonnée dont vous parliez. Ils sont en train de lancer l'agriculture écologiquement intensive. Alors après, c'est un débat, non, parce que c'est vrai que c'est une agriculture qui va être moins gourmande en produits chimiques, qui fait appel à des techniques héritées de l'agroécologie, c'est-à-dire le non-labour, la couverture permanente du sol, des engrais verts. Mais alors c'est pareil, c'est des gens en fait qui sont pas là pour nourrir l'humanité, qui sont pas là pour alimenter quiconque, ils sont là pour faire des bénéfices et garantir des profits. Donc ces techniques, ils les accompagnent. Alors il n'y a aucune réflexion au niveau social. Et surtout, c'est utilisation massive de glyphosate à côté de ces techniques, parce que donc ils mettent plus d'engrais chimiques, c'est des engrais verts. Et pour faciliter, alors j'ai posé la question, c'est Terena qui a lancé ça. Il y a même une fondation, je crois, agriculture écologiquement intensive. C'est pour faciliter c'est quand l'engrais vert est arrivé à maturité qui balance du glyphosate. Comme ça, la culture suivante peut plus facilement sortir et les engrais verts sont plus rapidement intégrés dans le sol. Mais en tout cas, ça va de pair avec le glyphosate, un désherbant total. Et qui est.
C'est Roundup, oui.
Et en l'occurrence.
Appelons-le Roundup, oui.
Puisque cette agriculture est utilisée, a déjà été mise au point, notamment en Amérique latine, qui veut. Si on utilise du glyphosate, ça veut dire qu'on utilise des semences OGM. Qui permettent l'utilisation de glyphosate. Donc, on peut se poser la question, moi, je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi, ça s'accompagne d'une campagne très violente, là, je suis contre l'agriculture biologique, avec des articles qu'on peut lire où, un peu partout, des chercheurs, des pseudo-chercheurs qui sont faits des espèces de mercenaires à la solde des multinationales, qui disent que l'agriculture biologique n'apporte rien au niveau santé, que c'est une immense supercherie, et on retrouve tout ça vulgarisé dans la presse, et chaque fois ça sert à lancer, je pense à un numéro spécial du Monde qui avait été consacré à toute une semaine sur le monde paysan, c'était à Blois, je sais plus, donc il y avait un numéro spécial du Monde, et c'était en fait un numéro destiné uniquement à lancer cette agriculture écologiquement intensive. Voilà, la question c'est pourquoi au lieu, et Stéphane Le Foll reprend exactement les arguments, et aujourd'hui est un adepte de l'agriculture écologiquement intensive et pas de la bio. Là c'est une question qu'il faudrait se poser, pourquoi ils sont toujours, ils n'arrivent pas à lâcher leurs intérêts vis-à-vis des multinationales.
José, oui.
Pour poursuivre sur la question de comment on change les choses, comment on change la donne. Effectivement, il y a les politiques publiques. Alors, l'autre jour, il y avait un débat entre José Bové, Europe Écologie des Verts, et un socialiste dont j'ai plus le nom, tous deux députés parlementaires européens, sur la PAC, justement. Et en fait, la position du député parlementaire socialiste, c'était en gros de dire que les deux agricultures peuvent cohabiter. Une agriculture écologique, bio, paysanne, et une agriculture conventionnelle, productiviste. Donc déjà, on peut être sceptique sur la façon dont le gouvernement va défendre l'agriculture, enfin notre mode agricole, effectivement. Il semblerait quand même que pour le moins on puisse dire qu'il n'y a pas un courage politique de force. Pour autant, je crois que la dimension politique, elle nous appartient. Elle nous appartient beaucoup plus près de nous. Et que chacun de nous, on a une place à jouer là-dedans. Et je reviens à cette idée d'une alliance entre le monde agricole, le monde paysan et les consommateurs et les citoyens, moi il me semble que les citoyens ont quelque chose à faire en soutien à cette forme d'agriculture, et pas uniquement sur le mode de consommation, mais aussi sur la façon de soutenir, via les politiques locaux, les élus locaux, le développement de cette agriculture. Je vais prendre deux exemples. L'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron, la PABA, accueille en son sein des consommateurs. Et s'ouvre aux consommateurs parce qu'elle a senti qu'il y a des alliances possibles, une ouverture intéressante pour les aider à peser politiquement. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on manque de poids. Cet après-midi, la Confédération paysanne a essayé d'ouvrir, en tant que syndicat agricole, de s'ouvrir à la société civile en accueillant d'autres associations pour réfléchir à comment peser sur le débat. Donc il me semble qu'il y a cette dimension politique locale qui nous appartient. Et que chacun de nous, on peut contribuer, qui avec le maire de sa commune, pour développer la bio dans les cantines. On a des exemples, ça marche. On a un tout petit village dans le sud d'Aveyron qui s'appelle Nantes, qui fonctionne en bio à 100%. C'est possible, là où d'autres collectivités qui ont des plus gros moyens nous disent que ça va marcher.
Et comment sont aidés les
conseillers généraux qui essayent de développer les choses, comment on appuie auprès des conseillers généraux, là où ça fait mal, pour qu'ils soutiennent le développement de la bio dans les cantines, mais pas seulement, pour qu'ils soutiennent des associations qui accompagnent les agriculteurs en appellation, le conseil régional aussi, qui a une politique un petit peu attentiste par rapport à ça. Donc je crois qu'on a beaucoup d'ouverture possible pour peser, mais collectivement et pas uniquement chacun dans l'idée, ensemble sur ce rapport de force avec le politique pour la
Il y a des municipalités aussi qui arrivent à geler des terres. Ça s'est passé vers Perpignan et à Saint-Étienne. Alors je ne sais pas quels moyens ils utilisent pour soustraire les terres à la spéculation foncière et pour donc ils arrivent à geler ces terres et après à permettre que des maraîchers, notamment en bio, ou pas bio. Oui, mais ils ont trouvé un argument, je ne me souviens plus exactement. C'est un peu quelque chose d'expérimental, peut-être que ça va se généraliser, mais en tout cas, il y a des possibilités aussi pour les municipalités au niveau local, soit de racheter des terres, soit de les préempter, soit d'aider des paysans à s'installer. C'est aussi du ressort des municipalités. Quoi.
L'atelier relais. À savoir que ça existe dans la Drôme, Pyrénées ou autres, où les communes, de plus en plus désertes, avec les paysans qui partent et tout, ont racheté des fermes et font comme ça s'est fait pour Chourny-le-Grillon, la Cassagne, les Gagnès, financent des aménagements avec des subventions et ensuite relouent au porteur de projet la structure. Le porteur de projet n'a pas à aller voir, on va dire, directement les banques, n'a pas à sortir directement un gros pactole d'argent, mais c'est un système de location-vente qui permet dans le temps une installation plus facile.
Et qui échappe à la SAFER alors.
Pardon ?
Ça échappe à la décision de la SAFER.
Qui achète et qui restaure ou restaure pas, mais le met une façon de location-vente quoi, à un porteur de projet. Mmh. Et ça, toutes les communes peuvent le faire. Mais il faut qu'ils en aient la volonté. Parce qu'ils peuvent avoir le capital.
Justement, il y avait un problème de succession de maraîchers autour de Rodez. Et c'est vrai que ce problème de succession, juste en bordure de Rodez, a mené des concurrences énormes avec, bien sûr, le problème immobilier de Rodez. Et bon, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui peut apporter une information là-dessus, savoir où ça en est, parce qu'on en avait parlé il y a 2 ans, quand on avait parlé des supermarchés dans les jeudis en question, et ça avait été exposé, ça. Et donc, maintenant, où est-ce que ça en est, cette histoire de succession de maraîchers, puisqu'ils étaient partant à la retraite? Oui, tu as des infos?
Pour ce qui est de la mairie de Rodez, a priori, il y a 4 hectares qui vont être affectés à des jardins bio, mais pas pour installer des maraîchers. Plutôt jardins familiaux. Et la commune de Château envisage à un moment donné d'affecter, elle, 2 ou 3 hectares à un maraîcher bio à condition qu'il approvisionne les cantines.
Oui, mais ça a rien à voir avec l'histoire de la succession.
Alors, ça ne règle pas la succession des maraîchers.
Ouais, c'est chose. Ah oui. Je ne sais pas, hein, moi, j'en avais entendu parler, mais c'est tout. J'avais pas plus d'infos que ça, mais par contre c'était des hectares qui étaient destinés, bon, qui avaient la concurrence immobilière bien sûr, mais qui pouvaient rester destinés à de l'agriculture autour de Rodez à condition de parler de zones vertes de... Bon.
Mais alors pour compléter l'information sur Rodez, dans Rodez il doit y avoir, je sais plus, 1500 ou 2000 logements vacants relativement vétustes qui pourraient être rénovés avec un objectif d'améliorer les conditions de vie au centre-ville. Mais la politique de la ville pour le prochain mandat, c'est d'urbaniser 14 hectares de terres agricoles sur la commune de Rodez, mais sur sa périphérie.
Oui, bien sûr.
Donc il y a véritablement des choix politiques qui peuvent être engagés. Et on est un certain nombre à essayer de changer ça, quoi, cette conquête permanente de terres agricoles pour construire au profit de l'agriculture périurbaine.
Il y a peut-être aussi des alternatives. J'ai une amie en un groupement d'achat qui vont chercher les pommes ou leurs fruits dans le Tarn-et-Garonne et qui s'est posé la question et a contacté, par exemple, c'est une amie qui fait partie d'un groupement d'achat qui achète leurs pommes dans le Tarn-et-Garonne et qui s'est posé la question pourquoi ils n'achèteraient pas à Pruine puisqu'on a des pommes ici. Elle a contacté un agriculteur de Pruine qui lui a dit « Moi, si vous m'achetez mes pommes, enfin une certaine quantité sur 3 ans, il faut 3 ans pour me convertir en bio. Mais est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner pendant 3 ans, le temps que j'arrive à évoluer en tant bio. Est-ce qu'on est prêt à ça?
Mais oui, voilà, c'est ça, faire circuler l'information. Roger, t'es son frère.
Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des remarques, mais peut-être alors, qu'il va falloir se diriger doucement vers,
oui, vas-y,
vers la fin.
Une question pour revenir sur M. Lesserance, que vous avez rappelé tout à l'heure. Donc, moi, je ne connais pas grand-chose. Je voudrais savoir comment ça se passe. Donc, dans l'agriculture conventionnelle, je crois que c'est acheté. Et dans le biologique, dans ce cas, comment ça se passe? Est-ce que c'est des semences qui sont achetées?
Alors, là, il y a tout un chapitre dans le livre. Moi, je ne suis pas compétent en la matière. Alors, je vais répéter ce qu'un peu écrit Pierre Besse, qui est lui maraîcher depuis 30 ans et connaît très bien, il est ingénieur agronome. Il a fait un chapitre très bien par rapport aux semences. Donc, il a un regard très critique par rapport aux semences. Ce n'est pas le seul, hein, c'est dénoncé par une semence paysanne aussi. Donc, par rapport aux histoires de semences dans la bio. Parce que pour que les semences puissent être utilisées et certifiées, il faut qu'elles soient, bon, pour qu'elles soient certifiées bio, il faut qu'elles soient inscrites au catalogue officiel des variétés végétales. Et la plupart des semences qui sont inscrites au catalogue, c'est compliqué à faire l'histoire, ça date de Vichy même, je crois, ce oui. catalogue.
On avait eu un numéro spécial des jeudis en question sur les semences, ouais, c'était le numéro 2.
Et ça, c'est, effectivement, il n'y a pas d'agriculture sans
février.
Terre. Il n'y a pas d'agriculture sans paysans et sans terre, il n'y a pas d'agriculture sans semences. Et il y a des luttes qui, très, très dures qui se passent aujourd'hui. Au niveau des semences. Donc on retrouve en ce moment Monsanto, Limagrain et compagnie sont les principaux, commencent à devenir ou sont devenus les principaux fournisseurs de semences pour l'agriculture bio certifiée. Parce que justement ce sont des semences, si elles sont inscrites au catalogue, ce sont des semences hybrides et qui sont forcément entre les mains des grands semenciers. C'est des semences que généralement, en majorité, on ne peut pas reproduire, que le paysan est obligé, le jardinier est obligé chaque année de racheter. Face à cela, il y a tout un mouvement assez puissant. Bon, il y a Cocopelli qui se bat contre ça, mais il y a aussi Semences Paysannes, il y a Biogerme dans le Lot-et-Garonne. Enfin, il y a un ensemble d'entreprises et d'associations et de mouvements qui luttent contre ça et qui défendent les semences paysannes. Qui sont des semences traditionnelles, qui s'adaptent au lieu, que les paysans peuvent reproduire chaque année, mais qui sont, en ce moment, il y a une zone floue, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra compléter, mais il y a une zone, ils sont un peu dans le non-droit, il y a une espèce de tolérance, mais si un jour on veut leur tomber dessus, ils peuvent avoir de sacrés ennuis, si les semenciers parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils n'ont pas le droit. Quelqu'un n'a pas le droit de racheter, de vendre ses semences paysannes à un autre paysan. Voilà, ça c'est interdit. Donc il y a un certain nombre de choses. Pour le moment, ça se passe dans le flou. Il y a des résistances qui se mettent en place. Justement, ils font appel, il y a quelqu'un qui fait ça dans le Lot-et-Garonne, mais je crois que Cocopelli fait ça aussi. Ils font appel aux citoyens pour que dans leur jardin, ils cultivent par exemple des variétés de blé. Pour pouvoir récolter après les semences. Donc il y a des réseaux de citoyens qui se mettent en place justement pour sauvegarder des semences. Mais il y a une vraie lutte qui se passe à ce niveau-là et les enjeux sont toujours les mêmes. Quoi. C'est, voilà. Oui.
Permettre déjà pour les jardiniers amateurs et les agriculteurs, ce n'est pas le même catalogue.
Ouais.
Hein, les jardiniers auront beaucoup plus de variétés. D'autre part, comme vous dites, on n'a pas le droit de vendre ni même de recevoir sur sa ferme, mais ça c'était des hypocres, les taxes. Et maintenant, c'est passé depuis 2007 de la loi sur la fraude et contre passeur. Ils n'ont pas fait passer dans la loi sur l'agriculture, parce que ça c'est. Ils l'ont fait passer sur les fraudes et contre passeur, comme ça personne ne donne attention. Et puis.
C'est les contributions volontaires obligatoires, non?
Oui, voilà.
C'est ça. C'est un joli nom. C'est de l'humour.
Il y a des maisons de semences qui s'ouvrent maintenant pour préserver. Mais avant que ce soit une multinationale, c'était encore une entreprise familiale.
Donc il faisait tout à la main. Il me dit, vous mettez 30 graines différentes sur le comptoir, je les connais toutes. Mmh. Soit des graines d'arbres, de plantes. Mais par exemple, pour la carotte, hein, il faisait une rangée de carottes. Il y avait des haies d'arbres entre les rangées pour pas que ça se croise. Hein. Et pour les salades, ils en cultivaient, je ne sais pas combien, je crois, c'était un demi-hectare de salade, ils en gardaient 5 pour la sélection. Mmh. C'est une vraie connaissance qu'il a maintenant sous terre, parce que c'est un métier aussi. Maintenant, on demande aux paysans d'être paysans et en plus d'être sélectionneurs de semences. Ça, bah, c'est, je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut préserver les semences, les paysans qui veulent préserver des semences, entre guillemets, ça peut être dans l'illégalité, mais pour préserver un patrimoine, il y a partout quand même. Ça demande du boulot quand même. Enfin, je
sais pas, ouais, c'est
bon, mais...
Mais ce, ouais. Qui, nous, on est nombreux, surtout dans nos régions de polyculture élevage, je pense à ressemer une partie de notre orge, de plus en plus rarement notre luzerne, mais ça se fait encore. Mais voilà, sur les contrôlés, j'imagine qu'on est marron, enfin, je ne me suis pas penché là-dessus, mais voilà, faut prendre le gauche, quoi, et la marque. Ouais. C'est vrai, mais tu prends un risque parce que tu. Ben, c'est simple, aujourd'hui, à l'époque, l'agriculture, on donnait des subventions pour soutenir les paysans, pour qu'ils produisent, etc. Aujourd'hui, on donne des subventions pour vous maîtriser et puis vous supprimer, enfin, supprimer ceux qui ne sont pas compétitifs. Quoi. Enfin, je caricature, mais l'état d'esprit, il est là aussi aujourd'hui, au niveau de l'accès aux subventions. Donc voilà, je fais le soin. Et pour rester sur les semences, je m'arrête là. Sur l'Aveyron, également au niveau des paysans, il y a tout un travail qui a été mis en place sur le sud d'Aveyron, donc une maison de la semence qui s'est montée à l'initiative de l'AVEM, l'association vétérinaire des éleveurs Miavois, qui c'est une émanation de la lutte du Larzac. Ce sont 150 éleveurs, conf et pas que conf, loin de là. Et ils salarient 3 vétérinaires et ils travaillent sur des méthodes un peu alternatives pour s'occuper de leur élevage. Et du fait d'avoir généré ce collectif, cette discussion, ce partage, ils ont voulu aller plus loin. Et donc, ils ont bossé avec un chercheur de l'INRA, que je ne sais plus comment il s'appelle, qui a réussi à avoir un petit financement pour travailler sur retrouver des populations de luzerne, de Saint-Foin, qui soient face au réchauffement climatique et aux sécheresses successives, principalement sur le sud Aveyron, où ils n'arrivaient plus à tenir des luzernes d'une année sur l'autre, obligé de ressemer, essayer de retrouver des populations résistantes. Donc ils ont fait tout un travail participatif où les paysans sont investis et avec un chercheur qui est là pour appuyer, ils font des prélèvements, ils regardent et tout. En plus, je crois qu'il y a des citoyens, j'en connais sur Toulouse, qui dans leur jardin, justement pour aider ça, de développer ces populations, dans leur jardin, cultiver un peu de... c'était pas de la veste, du Saint-Foin. Et bon, voilà, il y a des... En sachant que réglementairement, c'est limite, mais il n'y a pas de vente. Il n'y a pas d'échange, je sais plus, il y a tout un truc, mais bon, ils ont bossé là-dessus. Il y a des initiatives, il faut foncer là-dedans. Quoi. Mais faut qu'il y ait une émulsion, il faut qu'il y ait un groupe qui se crée, qui s'y intéresse. Et voilà.
Voilà, par rapport aux semences. Mais
y a des gens, des groupements d'achat ici qui font partie ou qui ont créé pour...
Oui, il y a pas mal de gens qui sont dans des groupements d'achat. Ce serait bien qu'ils témoignent aussi. Ils sont partis peut-être. Notamment de sortir du
supermarché, oui.
Ils sont plus là.
Ils sont plus
parler.
Là.
Apparemment, enfin, les groupements se multiplient. Enfin, moi, j'ai écrit un chapitre un peu là-dessus. Enfin, sur les alternatives à la grande distribution, et il y a le phénomène des AMAP et il y a le phénomène des groupements aussi qui se multiplient. Voilà, ce sont, enfin, il y en a beaucoup dans le Lot, en Aveyron, en Dordogne aussi. J'en ai vu beaucoup dans le Sud-Est, en Lozère aussi. Il y en a un de 200. Ce sont que des gens de Nature et Progrès là. Il y a 200 familles. Et le but, c'est donc de sortir du système de la grande distribution, et même là où il n'y a pas de boutique spécialisée en bio, ou là où il y en a, où les gens ne s'y retrouvent plus dedans, mais d'avoir, de se regrouper pour avoir les produits de base déjà à des prix comme on achète en quantité, avoir des prix plus bas. Après, ça peut être des échanges de groupements pour acheter des fruits et légumes, permettre aussi à des maraîchers de s'installer. Ça peut être, moi je connais des groupements qui achètent des produits en Andalousie, c'est essentiellement des agrumes, donc des choses qui ne rentrent pas en concurrence avec les productions locales, de l'huile d'olive, des mangues ou des avocats, toujours avec des petits producteurs, avec des échanges, les petits producteurs viennent et les gens vont là-bas. Ça peut être un ensemble d'initiatives comme ça, l'histoire des pommes, là, enfin, dans le Lot-et-Garonne aussi, il y a ce genre de choses qui se font. Donc c'est en fait pour permettre à des gens, et moi j'ai vu des gens qui étaient qui avaient vraiment très très peu de moyens et qui arrivaient à s'en sortir, à se nourrir entièrement avec des produits bio grâce à ce système, à cet échange d'informations et de solidarité entre les gens. Ça peut aller aussi jusqu'à si un maraîcher, enfin je ne sais plus où c'était ça, un maraîcher avait eu un coup de grêle, donc il n'a pas eu de production pendant un mois ou deux, et les gens avaient continué à lui payer quand même les chèques, à lui verser un chèque chaque mois pour l'aider à reprendre sa production, ou alors ça peut être des coups de main quand il y a besoin aussi sur la ferme. Enfin voilà, ça peut prendre tout un tas de formes. Ce n'est absolument pas labellisé, ce n'est pas structuré, ce n'est pas codifié, ce n'est pas normalisé. C'est des choses qui naissent spontanément, qui disparaissent aussi. Enfin, c'est quelque chose de très vivant et très. C'est ce qui avait donné naissance dans les années 70-80 au BioCop, c'est un réseau qui s'est un petit peu figé peut-être aujourd'hui. Donc voilà. Ce qui fait que. Qui explique peut-être ce renouveau des groupements d'achat. Voilà, je vais pas m'éterniser plus. Après, moi, je suis pas indispensable. Si vous voulez continuer à échanger, je pense que c'est comme ça, peut-être en multipliant ce genre de réunions, d'informations, qu'on pourra peut-être aboutir à autre chose.
Alors, tout à l'heure, on a parlé rapidement de l'APABA, l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron. C'est une association qui a une vingtaine d'années, qui est présente. Il y a de tout, hein. Il y a des gens qui font du cochon, de la poule, de l'œuf, de la viande. On est à peu près 230 agriculteurs sur le département. Et cette année, les cotisations sont ouvertes aux consommateurs. Elles commencent à 5 euros.
Bon, voilà une information tout à fait concrète pour arriver à faire se rencontrer les gens. Bon, on va remercier Philippe Baquet de son...
Merci à vous aussi, parce que